aujourd'hui, comme Daniel vous l'a annoncé, pour parler de cet amour divin qui n'a pas de prix, on vous propose deux messages pour le président. Des messages qu'on a voulu tous les deux être des messages témoignages de cet amour divin qui se conjugue au masculin comme au féminin. Et je vous invite encore à prier pour confier ce temps d'écoute de la parole au Seigneur. Oui, Seigneur, merci encore pour ton amour qui dépassera à jamais tous nos mots, mais que tu as choisi pourtant de nous révéler à travers une parole, ta parole, la Bible, transmise de génération en génération par des hommes et des femmes. Et je te demande qu'aujourd'hui quelque chose de ton amour soit révélé à chacun, chacune à travers cette parole, que cette parole puisse être une parole qui console, une parole qui apaise, une parole qui encourage, qui édifie, qui exhorte. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous propose tout d'abord de commencer à explorer cet amour de Dieu à travers un personnage féminin de la Bible, une disciple de Jésus, dont on peut vraiment croire qu'elle faisait partie de son cercle très intime, de son cercle de très proche, puisque les quatre évangélistes, les quatre personnes qui nous ont fait le récit de la vie de Jésus, nous mentionnent sa présence au moment où l'amour de Dieu s'exprime dans toute sa mesure, dans toute sa démesure même, on pourrait dire, lors de la mort de Jésus à la croix et lors de sa résurrection, matin de Pâques. Cette femme, on l'appelle souvent Marie-Madeleine, mais on devrait l'appeler plus exactement Marie la Magdaléenne ou Marie de Magdala. Magdala étant cette petite localité située vraisemblablement à l'ouest du lac de Tibériade, entre les petites villes de Tibériade et de Capharnaüm en Galilée, et désignant donc son origine géographique. Une origine géographique qui est toute proche de celle de Jésus de Nazareth, qu'elle va rencontrer et qu'elle va suivre. Et en me baladant dans les différents évangiles à travers les passages qui parlent de Marie de Magdala, j'ai découvert trois pistes de ce que peut être cet amour que Dieu nous offre, cet amour qui nous appelle nous aussi à vivre de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre intelligence. Aimer, c'est d'abord un chemin de liberté. Aimer, c'est ensuite servir jusqu'au bout. Et aimer, c'est enfin ne pas retenir. Aimer, c'est un chemin de liberté. Aimer, c'est servir jusqu'au bout. Et aimer, c'est ne pas retenir. Aimer, c'est d'abord un chemin de liberté. Alors, parmi les quatre évangélistes, il y en a un seul qui va nous parler de Marie de Magdala avant les épisodes de la mort et de la résurrection de Jésus, et c'est Luc. Et voici ce qu'il en dit au chapitre 8, versets 1 à 3 de son évangile. Par la suite, Jésus se mit à cheminer de ville en ville et de village en village. Il proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 étaient avec lui, ainsi que quelques femmes qui ont été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, celle qu'on appelle Magdaléenne, de qui étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, Suzanne, et beaucoup d'autres qui utilisaient leur bien pour le servir. Donc Luc nous dit donc que Marie de Magdala a été guérie de 7 démons, de 7 esprits mauvais. Alors ce que sont exactement ces 7 démons reste un mystère. En tout cas, quelque chose de terriblement effrayant. Très proche, je crois, de ce que le poète Rilke a appelé les dragons de nos vies. On pourrait même leur donner des noms. Peur, angoisse, emprise, obsession, culpabilisation, fatalisme, croyance limitante. Et on pourrait continuer la liste. Mais le plus important ici, c'est que sur ces 7 démons de Marie de Magdala et sur tous les démons de ta vie, de ma vie, Jésus proclame la bonne nouvelle du règne de l'amour de Dieu qui nous libère. Alors pas d'un coup de baguette magique, mais à travers un chemin du quotidien, de ville en ville, de village en village, en chemin fait de détours, de demi-tours, de voies sans issue, en chemin qui dure bien sûr toute une vie et qui passe ô combien aussi par d'autres personnes. Marie de Magdala n'est pas seule à suivre Jésus. Et dans ma vie, ce chemin de libération, il a pris une résonance particulière il y a un peu plus de 20 ans, quand je me suis fiancée à Nicolas, qui est depuis devenu mon mari, et que cet amour si authentique, si radical, dans le sens de ce qui nous atteint à la racine de notre être, venait bouleverser ma vie et mon intimité de jeune femme, et me faire prendre conscience de démons, de petites filles dont il me fallait guérir et me libérer. En chemin de libération qui est passé à l'époque par un an de thérapie avec une psychologue, une année assez douloureuse. Et comme Marie de Magdala, plus tard, quand elle est devant Jésus ressuscité, et que d'abord elle ne le reconnaît pas, j'ai pas pu tout de suite reconnaître Jésus à travers ce chemin avec la psychologue. Après un an, j'ai peu à peu fermé mon cœur à ce Dieu dont je croyais qu'il m'avait abandonnée et dont je me suis mis à douter de l'existence, trop beau pour être vrai. J'avais peur d'encore souffrir. Et ce n'est que des années après, entre autres sous les traits d'une prof d'espagnol pleine de grâce, qui était aussi danseuse et évangélique, que Jésus ressuscité est peu à peu revenu dans ma vie, que j'ai pu le reconnaître, non seulement dans ce chemin entrepris avec la psychologue, mais aussi à chaque moment de ma vie, depuis ma conception. Une présence discrète et bienveillante qui accompagnait chacun de mes chemins, qui continue à les accompagner et qui continue aussi à m'inviter à me libérer de tout ce qui m'empêche d'aimer. Un chemin de liberté auquel je crois que chacun et chacune nous sommes invités personnellement, mais qui n'est évidemment pas un chemin pour nous tout seuls. Si on se libère, c'est pour mieux aimer Dieu, c'est pour mieux aimer les autres et pour pouvoir nous aussi à notre tour éveiller d'autres personnes à cette incroyable liberté que nous donne l'amour inconditionnel de Dieu. Une invitation pour toi aussi, aujourd'hui, quels que soient tes démons, quelle que soit la saison de ta vie, aimer, c'est un chemin de liberté. Aimer, c'est ensuite servir jusqu'au bout. Et je vous invite maintenant à rejoindre Marie de Magdala, témoin avec d'autres femmes de ce qui restera à jamais le plus grand mystère d'amour de l'humanité, la mort de Jésus sur la croix. Je vais vous lire ce que nous en rapporte l'évangéliste Marc au chapitre 15, versets 40 à 41 de son évangile. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles, Marie, la Magdaléenne, Marie, mère de Jacques, le mineur, et de José, et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Marie de Magdala, avec beaucoup d'autres, regarde de loin cet homme qu'il a aimé, le premier, cet homme qu'elle a tant aimé, mourir sur une croix. Et je crois qu'on ne peut en effet que regarder de loin ce mystère d'amour qui dépassera à jamais tous nos mots, toutes nos explications. Audrey l'avait dit avec beaucoup de poésie le jour de son baptême. Le plus beau « je t'aime » de l'humanité a été prononcé en silence sur une croix. Marc nous dit aussi que Marie et toutes ses femmes ont suivi et servi Jésus de Galilée à Jérusalem, et Luc nous précisait qu'elles utilisaient leurs biens pour le servir. Alors on pense évidemment avant tout à des biens matériels, mais ça pourrait être aussi des biens spirituels, intellectuels, artistiques, créatifs, manuels. Et toi, quels sont les biens que tu peux utiliser pour servir Dieu et les autres, pour faire du bien autour de toi, dans ton église, mais aussi dans ta famille, avec tes proches, tes amis, tes collègues, dans les associations où tu es engagé, avec tes voisins, y compris et surtout peut-être quand tu as l'impression de ne servir à rien. Et dans notre société où la valeur d'une personne est trop souvent déterminée par son utilité, souvent en termes purement économiques, cet amour est absolument révolutionnaire. Jésus, qui toute sa vie n'a cessé de proclamer qu'il était venu pour servir, et dont le comble du service s'exprime sur une croix où il est cloué, totalement impuissant, te dis que toi aussi, quel que soit ton état, quoi que tu aies fait, tu es aimé, tu es pardonné et tu peux aimer et servir jusqu'au bout, de ta Galilée natale à Jérusalem. Alors ce chemin de Galilée à Jérusalem, il est différent pour chacun et chacune, et je sais que pour plusieurs personnes dans cette salle, il est passé par un chemin d'exil géographique. Ça a été aussi un peu mon cas. De ma Belgique natale, le chemin m'a mené en France, mais aussi plusieurs années en Espagne et aux États-Unis au gré des mutations professionnelles de Nicolas. Ce qui a impliqué de nombreux petits deuils relationnels, professionnel, personnel, et parfois aussi au cœur du déracinement, cette impression de ne servir à rien. Combien de fois, comme Marie de Magdala et ses femmes, j'avais à offrir à Jésus que mon impuissance et mon épuisement de maman expatriée, de trois petits garçons pleins d'énergie. Alors peut-être que toi aussi aujourd'hui tu te sens épuisée, peut-être que toi aussi aujourd'hui tu te sens à bout de force. Je t'invite à, comme Marie de Magdala, regarder Jésus, qui sur la croix a été jusqu'au bout de l'amour, pour que par lui tout homme et toute femme soient sauvés. Je t'invite à l'écouter proclamer sur ta vie son amour victorieux sur toute mort, et avec lui ta valeur infinie dans son royaume, où toi aussi, dès à présent, tu peux aimer et servir jusqu'au bout. Aimer, c'est servir jusqu'au bout. Aimer, c'est enfin ne pas retenir. Et cet amour de Jésus victorieux sur toute mort, il s'exprime dans les quatre évangiles à travers un tombeau vide découvert le matin de Pâques par quelques femmes, dont Marie de Magdala. Et je vous invite comme dernier extrait à lire la rencontre entre Jésus ressuscité et Marie de Magdala que nous rapporte l'évangéliste Jean, et c'est d'ailleurs la seule fois dans toutes les évangiles où des mots sont mis dans la bouche de Marie de Magdala, et l'enseignement que lui livre Jésus est encore d'une actualité brûlante pour nous tous aujourd'hui. On le trouve au chapitre 20 de l'évangile de Jean, versets 14 à 18. Elle se retourna. Elle voit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu ?» Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi, j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Marie, la Magdaléenne, vient annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit cela. Alors tout d'abord, en ce 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, je voudrais souligner le caractère absolument révolutionnaire de cet amour et de ce texte, écrit à une époque, Daniel l'a bien rappelé, où les femmes n'avaient pratiquement aucun droit, en tout cas dans cette culture juive. Elles n'avaient en tout cas pas le droit de s'instruire, donc d'être disciples d'un maître, ni celle de témoigner devant tribunal. Et Jésus choisit ici une femme, Marie de Magdala, non seulement comme disciple, elle l'appelle clairement maître, Rabouni, mais aussi comme première témoin de sa résurrection, envoyée annoncer à ses frères et sœurs cet amour que même la mort ne peut retenir. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué un détail un peu étrange dans ce texte, c'est que Marie de Magdala se retourne deux fois. D'abord quand elle voit Jésus, et puis quand elle le reconnaît, ce qui physiquement est un peu étrange et impossible. Et quand on connaît le goût de Jean pour les symboles, on imagine bien que ce retournement est avant tout un retournement intérieur. Un retournement intérieur auquel nous appelle cet amour de Dieu et qui tient, je pense, en une phrase que prononce Jésus ressuscité à Marie de Magdala. « Ne me retiens pas. » Jésus lui livre ici une clé de ce qu'est cet amour de Dieu en lui disant ce qu'il n'est pas. Aimer, c'est ne pas retenir. Le plus grand frein à l'amour, ce serait de nous retenir d'aimer, ce qui voudrait dire nous retenir de vivre, de rire et de pleurer, parce que l'amour implique tôt ou tard de nous confronter à la perte de ce qu'on aime. Et dans les arrachements provoquée par mes multiples déménagements, à la question de Jésus, « Femme, pourquoi pleures-tu ?» Je crois que j'aurais répondu « Je pleure parce que je ne me suis pas retenue d'aimer ce lieu, cette personne, ces activités. » Quand je préparais cette prédication, j'ai eu au téléphone une femme très courageuse qui a 60 ans et est déjà veuve deux fois. Et elle me racontait qu'à la mort de son mari, père de ses filles, elle avait continué à écrire un livre qu'il avait commencé à écrire sur sa vie et qui racontait un vrai chemin de résurrection parce que cet homme, à partir d'une enfance marquée par la maltraitance et la pauvreté, était devenu un artiste qui créait de la beauté à partir de presque rien, des matériaux de récupération et le papa heureux et fier de trois filles. Et quand elle a fini d'écrire ce livre, comme Marie de Magdala, elle est allée à la rencontre de ses frères et sœurs au cours de lectures musicales. Et quand elle lisait des extraits de ce texte, dans son corps de femme endeuillée, quelque chose de fort passait, de cet amour qu'elle ne retenait pas, mais qu'elle continuait à partager et qui restait vivant. Et c'est ce qui, selon ses propres mots, l'empêchait de s'effondrer. Cet amour qui ne retient pas, il résonne particulièrement en nous, dans nos temps de deuil, mais je pense que c'est aussi un appel au quotidien. Et j'en suis moi-même l'heureuse bénéficiaire depuis tant d'années de la part de Nicolas, qui ne partage pas ma foi chrétienne, mais qui ne m'a jamais retenue dans ma vie de foi, ni dans mes divers engagements en Église. Au contraire, il m'a toujours écoutée et soutenue, et en particulier dans mon ministère de prédicatrice. Aujourd'hui, je suis appelée moi aussi à vivre d'une façon un peu particulière cet amour qui ne retient pas, puisque la vie professionnelle de Nicolas l'envoie 3 semaines chaque mois en Bulgarie. Et puis je pense que cette période de transition pastorale que nous vivons en Église est aussi un appel très fort pour chacun et chacune à vivre cet amour qui ne retient pas. Et toi, qu'est-ce qui, aujourd'hui, pourrait te retenir d'aimer Dieu et les autres ? Je vous propose de terminer par quelques phrases du philosophe Jean-Luc Nancy, qui a écrit un livre qui s'appelle « Nolim et Tangere ». C'est la traduction latine, justement, de cette phrase adressée par Jésus à Marie de Magdala, « Ne me touche pas » ou « Ne me retiens pas ». Et ce qu'il écrit nous montre vraiment toute l'exigence et la radicalité de cet amour. « Tu ne tiens rien. Tu ne peux rien tenir ni retenir. Et voilà ce qu'il te faut aimer et savoir. Voilà ce qu'il en est dans savoir d'amour. Aime ce qui t'échappe. Aime celui qui s'en va. Aime qu'il s'en aille. » Aimer, c'est un chemin de liberté. Aimer, c'est servir jusqu'au bout. Et aimer, c'est ne pas retenir. Dans quelques minutes, nous allons continuer à explorer cet amour de Dieu à travers le message de Daniel. Mais avant ça, je vous invite à prendre un chant qui aurait vraiment pu être le cri du cœur de Marie de Magdala à Jésus quand il la libérait de ses démons, quand il l'invitait à le suivre de Galilée à Jérusalem et puis à témoigner à ses frères et sœurs de cet amour que même la mort ne peut retenir, de cet amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Oui, entends nos cœurs, Seigneur, nos esprits qui te louent. Amen.
Faites bien attention, mesdames, voici la vision masculine qui arrive. Êtes-vous prête à l'entendre ? Wardia, ça fait 3 mois qu'elle tremble. Je vous invite à respirer profondément et à vous dégager de tous vos préjugés afin que mes paroles soient reçues par vous, par un esprit de bienveillance et non de méfiance. Amen. Bon, déjà ça, t'es déjà dégagé, c'est déjà pas mal. Bon. Alors, lorsque Christelle m'a posé la question, « Daniel, quel personnage biblique as-tu choisi pour le culte ?» Ben, j'ai répondu spontanément et sans réfléchir, « Wardia, mon épouse !» Cette réponse m'a moi-même surpris. Et pourtant, dans le fond, il n'y avait rien d'étonnant à ça, car elle est la femme que je connais le mieux et en qui j'ai pu voir le merveilleux travail de reconstruction que Dieu a, et de restauration de Dieu, que ce soit dans sa vie, dans ma propre existence et dans notre couple et notre famille. Alors le texte que j'ai choisi comme support de la nouvelle relation, homme-femme réconciliée en Jésus-Christ, se trouve dans l'Ancien Testament. Et ce texte parle de Wardia et de moi, mais aussi beaucoup d'hommes et de femmes et de couples pourront ce matin se reconnaître et se retrouver dans le très beau chapitre de Proverbe 31. Alors je vous propose de lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 31 ce texte. Ah, ça commence bien. Qui trouvera une femme de valeur ? Elle vaut bien plus que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et c'est tout bénéfice pour lui. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Vous vous rendez compte ? Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Pareil à un navire marchand, elle rapporte ses provisions de loin. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit et elle donne la nourriture à sa famille et ses ordres à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'achète. Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec la force en guise de ceinture, elle affermit ses bras. Elle constate que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle file elle-même la laine, elle tisse elle-même ses habits. Elle ouvre ses bras aux malheureux, elle tend la main aux pauvres, elle ne redoute pas la neige pour sa famille, car chacun est habillé de cramoisi. Elle se fait des couvertures, elle a des habits en fin lin et en pourpre. Son mari est reconnu aux portes de la ville lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. La force et l'honneur, voilà ce qui l'habille. Elle rit en pensant à l'avenir, elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement plein de bonté est sur sa langue. Elle veille à la bonne marche de sa maison, elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse, son mari aussi, et ils chantent ses louanges. Bien des femmes font preuve de valeur, mais toi, tu es en tout supérieur, tu es toute supérieure. La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. C'est la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. Donnez-lui du fruit de son travail et qu'aux portes de la ville, ses œuvres fassent son éloge. Sacré texte, hein ? Alors, avant d'entrer de plein pied dans la méditation de ce texte, j'aimerais vous en présenter l'auteur. Il s'agit d'une femme, d'une mère profondément croyante, animée d'une crainte respectueuse de Dieu. Elle envoie un message à son fils Lémuel, qu'on ne connaît pas, mais qui est un jeune roi dont le nom signifie, et ça c'est très important, « voué, consacré à l'Éternel » pour l'instruire selon les voies de Dieu dans la relation homme-femme. Cette maman qui aime passionnément son fils, c'est aussi quelque part l'image de Dieu qui aime passionnément ses enfants et aspire à leur bonheur. Alors, le texte, lui, il commence par, si vous l'avez remarqué, une question, mais aussi une affirmation. Qui trouvera une femme de valeur ? Elle vaut bien plus que des perles. Alors nous avons défini ce qu'est une femme de valeur. C'est la femme qui craint Dieu et marche selon ses valeurs. C'est une perle spirituelle. Vous savez qu'une perle, c'est un corps dur, nacré et blanc qui se forme à l'intérieur d'un coquillage et en général une huître perlière. Au départ, il s'agit d'un tout petit caillou pointu, comme ça, un tout petit caillou pointu. Et ce petit caillou, qu'est-ce qu'il fait ? Il blesse le coquillage, et le coquillage se défend en long rebond de nacre. Donc, on part d'un caillou pour arriver à un trésor. Vous le voyez, ce bijou très recherché de grande valeur n'est au début qu'un simple petit caillou sans valeur qui va être transformé avec le temps pour donner un bijou de grand prix. Alors, si nous replaçons cela dans le cadre des valeurs féminines, nous voyons que seule la main puissante de Dieu peut transformer une femme ordinaire en une femme extraordinaire. Ah, il y a 40 ans, Jean-Haut, t'étais pas né, toi, il y a 40 ans. Il y a 40 ans, Dieu a mis sur ma route une jeune fille très belle, atteinte de la polio. Je l'ai rencontrée à Flavigny, où elle était élève et moitié. Puis, plus tard, au pied de mon immeuble. Et puis, il s'est passé tellement de coïncidences dans nos rencontres que j'ai la conviction profonde que la main de Dieu était sur nous. C'était pas possible autrement. Wardia, elle, était en rupture familiale, athée. Vous savez, un jour, elle m'a dit « Dieu est mort, Nietzsche ». Moi, je lui ai dit « Nietzsche est mort, Dieu ». Voilà. Un peu fofolle dans sa tête, mais avec un potentiel intérieur très fort. Hélas, totalement perturbée par des blessures d'enfance très profondes. Elle fumait comme un pompier et passait sa vie à refaire le monde avec ses copains et copines. Bon, moi, j'étais plus âgé, j'étais dans une grande solitude intérieure. J'étais croyant, mais non pratiquant, ce qui est vraiment contradictoire, déjà. Je n'avais aucune confiance en moi. J'avais très peur de me marier et je vivais sans perspective d'avenir. Je cherchais, je crois, la femme parfaite et idéale. Je crois que je cherchais ma mère, quoi, en fait. Hein. Ben, comme beaucoup d'hommes, hein, comme beaucoup d'hommes. Dieu a posé, j'ignore pourquoi, ses regards sur Wardia et sur moi. Il a utilisé Wardia pour m'amener à Dieu, et il m'a utilisé pour amener Wardia à se réconcilier avec Dieu en Jésus-Christ et devenir une perle de très grand prix. Alors notre couple, parce qu'on était en couple, vivait de façon chaotique. Quand Dieu m'a soudainement retiré Wardia, elle est partie et j'ai très mal vécu son départ. Je suis entré dans une profonde dépression et lors d'un voyage en Équateur, j'ai crié ma douleur à Dieu. Je lui ai dit « Seigneur, réponds-moi !» Et, miracle, j'ai entendu que le Seigneur, il me parlait, il m'a répondu. Et je suis entré, à partir de ce moment, sur le chemin de la rencontre et de la réconciliation avec Dieu. Je suis rentré en France, j'étais en recherche de Dieu, Wardia est revenu, et nous avons cheminé ensemble pour trouver une église de Vendeuvre, et pour nous engager avec Dieu. Nous étions sur le point de le faire, à l'église évangélique de Vendeuvre, quand Dieu nous a demandé de nous séparer. Toute une nuit, c'est long une nuit, toute une nuit, j'ai entendu une voix qui me répétait « séparation, purification, union, séparation, purification, union ». Je me suis levé, j'ai dit « séparation, purification, union ». Je me disais « ça veut dire quoi ?» Je ne savais pas, j'en savais rien, moi, parce que je n'avais pas compris ce qu'il m'avait dit. Et pourtant, toute une nuit. Mais en même temps, Dieu avait fermé le cœur de Wardia. Il l'avait fermé pour moi. Pendant 3 ans, nous avons vécu de manière semblable la purification de Dieu dans nos vies. 1 Jean 1,7, le sang de Jésus nous a purifiés de toute iniquité. Il nous a lavés de toutes nos fautes et surtout, c'est ça qui est important, il a changé nos cœurs et nos vies selon sa promesse. Ézéchiel 11,19, je leur donnerai un cœur qui me sera entièrement dévoué et je mettrai en eux un esprit nouveau. J'ôterai de leur être le cœur dur comme de la pierre et je leur donnerai maintenant un cœur de chair, afin qu'ils vivent selon mes ordonnances et qu'ils obéissent à mes lois et les appliquent. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. C'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez, non mais la Bible, quand elle parle, elle dit la vérité. Parce que ce que la Bible dit par écrit, c'est ce qui se passe dans nos vies. Wardia qui m'avait dit, alors ça c'est beau aussi, elle m'avait dit les yeux dans les yeux, après notre séparation, Daniel, tu ne seras jamais mon mari. Ça fait 40 ans que je suis son mari. Comme quoi, il ne faut pas faire confiance aux femmes. Non, mais pas confiance aux hommes non plus. Pas confiance à l'être humain. C'est elle-même qui est venue me chercher pour me demander, selon ce que Dieu m'avait promis, Daniel, as-tu encore des sentiments pour moi? Tu parles. Tu parles, ça faisait 3 ans que je priais pour elle. Dieu nous a radicalement changés. Et 1 an plus tard, Wardia et moi, nous unissions nos vies selon la belle promesse de Dieu. Et moi qui avais peur de me marier, j'ai dit oui avec enthousiasme. Parce que c'était plus la même. C'était une femme transformée, métamorphosée. Wardia n'était plus du tout la même, mais moi non plus. Extérieurement, je la trouvais toujours aussi jolie, toujours aussi belle. Mais à présent, son cœur appartenait à Jésus. Elle lisait tous les jours la Bible et vivait la Bible. Elle vivait ce qu'elle lisait. Elle avait une relation avec Dieu quotidiennement. À présent, nous avions des projets d'avenir communs et nous les portions ensemble devant Dieu. Mais c'était une transformation, ça changeait tout. Proverbe 31, verset 11 dit « Le cœur de son mari a confiance en elle et c'est tout bénéfice pour lui. » Oui, c'était bénéfice pour moi. Alors, moi qui ne faisais confiance à personne, et surtout pas à Wardia, qui m'avait déjà quitté 2 fois, qui m'avait abandonné, en devenant le mari de cette femme transformée, de cette femme métamorphosée dans son cœur, je lui ai fait une totale confiance. Non pas parce qu'elle était devenue parfaite, il n'y a pas de femme parfaite, pas plus que d'homme, je le précise, mais parce qu'ancrée en Dieu, ce n'était pas à moi qu'elle rendrait des comptes sur sa vie, sur notre couple, sur sa conduite, mais à son Dieu en premier. C'était à Dieu qu'elle avait maintenant des comptes à rendre. Frères, sœurs, chers amis, la confiance ne se décrète pas. Elle se gagne. parce que l'autre en est digne. La totale confiance que j'ai placée en Guardia a pu durer parce que notre couple, nos vies, n'ont jamais cessé d'être fondées sur le Christ. Jamais. Jamais. Ceci, comme le dit le verset 11 de Proverbe 31, a été tout bénéfice pour moi et notre famille, car en m'appuyant sur Dieu en premier et sur Guardia en second, j'ai pu grandir dans mon rôle de mari, de père, de famille et de responsable d'église. D'ailleurs, j'ai été nommé ancien de l'église l'année même de notre mariage en 1990. Jérémie 17:7, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Alors là, elle fait du bien et non du mal à son mari tous les jours de sa vie. Tous les jours. Alors, vous savez, lorsque je demandais une épouse à Dieu, je demandais quoi en premier ? Je demandais une épouse engagée en Christ, qui soit belle de figure. Elle est belle. Avec du caractère. Mais du bon caractère. Et j'ai été exaucé en tout, et même au-delà de mes demandes. Lorsqu'on parle de bien et de mal, on se rend compte que les pensées de Dieu et de l'homme, elles ne sont pas du tout les mêmes. Ésaïe 55, verset 8, « Vos pensées ne sont pas mes pensées, déclare l'Éternel. » Pour moi, une épouse qui me fait du bien, c'est une femme qui pense comme moi, qui a les mêmes désirs que moi, qui me ressemble, quoi. Elle aime le foot. Mais je n'ai jamais réussi à la mettre, même devant la télévision, pour voir un match. Pour Dieu, une épouse qui fait du bien à son mari, c'est une femme que Dieu utilise pour le remettre en question, le transformer, le faire grandir, et bien souvent, ça ne se passe pas sans casse, de part et d'autre. La Bible illustre très bien cette expérience de couple. Proverbe 27, verset 17, « Tout comme le fer aiguise le fer, eh bien l'homme s'aiguise au contact de son prochain. » Et moi, c'était au contact de ma prochaine. Alors, personnellement, je vais vous faire un aveu, je suis un très grand procrastinateur devant l'Éternel. Moi, j'ai tendance à remettre au lendemain ce que je peux faire le jour même. Surtout les choses que j'aime pas. Alors un jour, je dis à Wardia, ce serait bien qu'on se fasse un Noël, tu sais, en famille en Tunisie, c'est pas très cher. Et je lui dis cela le matin comme un projet de procrastinateur. Et je pars au travail. Le soir, je rentre, elle me dit, tiens, au fait, j'ai appelé le clairvoyage, j'ai retenu l'avion et l'hôtel pour Noël, on va signer samedi. Sur le moment, moi, je dis, attends, j'étais pas content. Un procrastinateur, il n'a pas envie qu'on fasse ses projets. Parfois, quand le fer aiguise le fer, ça fait mal. Quand elle me reprend dans mes faiblesses, et quand elle ne lâche pas l'affaire, parce que c'est souvent elle ne lâche pas l'affaire, je souffre et j'explose. Par exemple, elle me dit, tu n'as toujours pas rangé le bois qui traîne dans le jardin. Je lui dis, qu'est-ce qu'il dit en procrastinateur? Je le ferai demain. Je le ferai demain, parce que là, tu comprends, chérie, j'ai pas eu le temps. Ça fait une semaine que ça traîne. Oui, c'est vrai, ça fait une semaine quand même. Me mettre en pleine face que je suis un procrastinateur m'énerve. Et je lui dis, mais quel caractère! Elle me répond, mais c'est pas ce que tu as demandé à Dieu? Et ça m'énerve encore plus, parce que c'est vrai, c'est moi qui l'ai demandé à Dieu, quoi. Bon, je lui ai demandé de me donner une femme de caractère. Et je dis, en partant, mais où ils t'ont péché, tes parents? Ils ont dû te pécher en eau profonde, parce que pour avoir un caractère pareil. Alors, c'est vrai, frères et sœurs, ça ne se dit pas, parce que en tant qu'ancien de l'Église, je ne devrais pas dire des choses comme ça. Mais dans mon cœur souffrant, dans mon ego blessé, à chaque fois me revient cette image où pendant 3 ans, j'ai prié, j'ai supplié pour que cette femme qui m'énerve, elle devienne mon épouse, quoi. Et je dis à Dieu, merci Seigneur de me l'avoir donnée quand même. Merci Seigneur de me l'avoir donné. Voilà, c'est marqué comme ça. Merci Seigneur de me l'avoir donné. Alors, C'est vrai qu'auparavant, avant notre réconciliation avec Dieu, notre fondement en Jésus-Christ, ben moi j'aurais boudé pendant 3 jours, ou peut-être même une semaine, vous voyez, une semaine, et voir Dieu m'aurait harcelé de reproches, mais aujourd'hui nous prions ensemble et passons par le pardon, et nous pardonnons comme Christ nous a pardonné à la croix. Ephésiens 4, verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » C'est vrai que lorsque bien en réconciliant en Christ, nous parvenons, grâce à Dieu, à gérer ces moments où le faire aiguise le faire, eh bien, on grandit dans la relation homme-femme. Mais si le couple est mal fondé, on peut vivre des relations homme-femme compliquées, avec des couples chrétiens qui peuvent faire naufrage et se séparer, comme on faisait avant. La femme vertueuse, selon le cœur de Dieu, est avant tout une femme active. On peut l'observer lors de la lecture du texte de Jérémie 31 que je vous ai lu. Quand Guardia lit tout ce que fait cette femme, elle me dit « Ah non, c'est pas moi, je ne suis pas parfaite ». Mes sœurs, une femme qui a reçu de telles vertus de Dieu n'est pas une femme parfaite, mais une femme vertueuse. Cette femme est active, mais aussi prévoyante. Elle pense à 1000 choses à la fois. Elle est une parfaite bénédiction pour son mari. Vous pensez, elle fait tout. C'est magnifique. Mais elle fait plein de choses à la fois. Et elle fait aussi beaucoup de choses à la maison. Personnellement, j'ai été impressionné par la capacité d'action de la femme transformée par Dieu. Alors, Guardia, je le rappelle, c'est quand même une personne qui a la polio. Je lui ai proposé de rester à la maison, mais elle a travaillé à mi-temps. Vous voyez ce que ça représente? Elle s'est investie dans la maison, dans l'église, dans sa famille maternelle, et à l'école des filles. Mais la femme en général, mais la femme transformée a 2 grandes forces, le courage, et je répète, moi je n'aimerais pas accoucher, mais c'est un grand courage, l'accouchement, et la vision des besoins. Elle voit très très bien les besoins. Guardia, elle voit les besoins, mais des fois elle me demande de les faire, vous voyez. La femme vertueuse dispose d'une grande liberté d'action du fait que le cœur de son mari a confiance en elle. Une plaisanterie qui circule dit « Savez-vous pourquoi une femme ne quitte jamais sa cuisine ?» Et parce que la chaîne qui la retient est trop courte pour qu'elle en sorte. Et souvent, la femme a une chaîne psychologique. Voyez, je vais vous donner un exemple. En réalité, psychologiquement, si l'homme impose à la femme de faire les tâches ménagères, pour la femme, c'est un asservissement. C'est pas normal. Mais si l'homme laisse toute liberté à sa femme et que c'est elle qui prend la liberté de s'occuper de sa maison et de faire les tâches ménagères, eh bien, elle le fait avec joie et responsabilité. C'est une bénédiction. Ce ne sont pas les tâches qui avilissent la femme, c'est l'obligation qui les pousse à les faire. Et souvent, nous, en tant que mari, c'est vrai que si on a une grande confiance en sa femme, on lui laisse beaucoup de liberté. Il y a une énorme différence entre l'homme et la femme. La femme est capable de penser et de s'engager dans plusieurs activités à la fois, mais pas l'homme que je suis. Par exemple, je demande à Guardia, « Veux-tu que je te vide le lave-vaisselle ?» Elle me répond, « Oui, si tu peux passer aussi l'aspirateur et me chercher 2 oignons. » Attends, je dis, « Arrête, Guardia, je ne suis qu'un homme. Je ne peux faire qu'une chose à la fois. » Franchement, des fois, ça m'irrite, parce qu'elle est capable de faire 3-4 choses à la fois, mais moi je ne peux faire qu'une seule chose, une seule. L'homme et la femme sont donc bien différents. Voyez par exemple, c'est marqué dans le texte, elle pense à un champ, elle l'achète, verset 16. Là, dans notre couple, dans notre famille, c'est Dieu qui a choisi Guardia pour construire la maison d'Aïcourt où on habite. Au début de sa réconciliation avec Dieu, Guardia a reçu cette promesse qu'elle n'a pas comprise sur l'instant. En Chronique 28:10, « Sache que l'Éternel t'a choisi pour lui construire un édifice qui serve de sanctuaire. » Et quand notre 3e fille Solène est venue au monde, la maison que nous, on avait auparavant étant devenue trop petite, eh bien j'ai pensé, moi, à faire un agrandissement, parce qu'il n'y avait pas de terrain libre à Heillecourt. Bah, elle en a trouvé. Hein. C'est incroyable. Wardia a téléphoné à la mairie, il restait 3 terrains, et elle en a retenu un. Dieu choisit qui il veut. Hein, on peut dire, mais c'est à l'homme à choisir, c'est à l'homme à déterminer, mais là, il a choisi Wardia. Son mari est reconnu aux portes de la ville lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Alors, vous l'avez sûrement remarqué, on parle peu du mari hein, dans ce texte. D'après Proverbe 31, si la femme est maîtresse dans sa maison, eh bien, l'homme, lui, représente sa maison à l'extérieur. Il siège parmi les responsables du pays. En réalité, ils sont complémentaires. Hein, si la femme ne gère pas bien sa maison, bah, l'homme ne peut pas siéger parmi les responsables. Moi, je me souviens, hein, lorsque j'ai été reconnu comme ancien de l'Église, ben, j'ai été en grande partie reconnu comme ancien parce que Wardia était très investi avec Dieu et avait un bon témoignage dans l'Église. Sans elle, ben, je n'aurais pas été ancien. Voilà. Donc, mon épouse m'a apporté un complément dans ma vie. La femme vertueuse a tendance à prendre beaucoup de responsabilités et c'est une bénédiction pour le mari. Wardia, par exemple, elle veut être responsable de tout. Elle veut être responsable même du jardin dans lequel elle ne va jamais, elle va même très rarement, et puis elle n'y connaît rien. Ce que j'ai vu, c'est que lorsque un gros problème survient, elle me dit « Daniel, qui est le responsable de la famille, toi ou moi ?» Et là, quand ça se passe mal, ben on tombe d'accord, le responsable de la famille, c'est moi. Voilà. Quand tout va bien, c'est elle, quand ça se passe mal, c'est moi. Donc, en fait, c'est moi le responsable. Le vrai sens biblique du mot chef est celui de responsable. Celui qui prend en main ses responsabilités d'homme, de mari et de père de famille, et en particulier dans le domaine spirituel. C'est ça le responsable en tant qu'homme. Il est un exemple, un modèle à suivre. Il ne fuit pas ses responsabilités familiales. Il n'hésite pas à intervenir quand la famille est en danger spirituel. Vous savez que c'est ce qui a fait défaut à Adam. Hein, quand Ève a croqué dans le fruit, bah Adam aurait dû lui dire « Attends Ève, qu'est-ce que tu fais là ?» Hein, c'est pas ce que Dieu nous a demandé. Il aurait dû la reprendre. Et nous, en tant que responsables spirituels, en tant qu'hommes, on doit aussi prendre nos responsabilités. Et des fois, on manque de responsabilité. Il est prêt, cet homme, à se sacrifier pour son épouse et sa famille, comme Christ l'a fait pour l'humanité. Frères, sœurs, une femme a besoin, pour être sécurisée, de pouvoir s'appuyer sur un homme responsable. Est-ce que vraiment, nous, on prend nos responsabilités en tant que chrétiens, en tant qu'hommes ? Verset 28, ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari aussi, et il chante ses louanges. Frères, sœurs, chers amis, la femme réconciliée, transformée par Dieu, est une femme épanouie et heureuse. T'es heureuse, Wardia ?
Oui.
Elle est dans la liberté, dans la reconnaissance de tous. Elle est aimée de Dieu, de son mari, de ses enfants. Elle n'a plus besoin de chercher une place pour être reconnue, pour exister. Elle est heureuse dans ce qu'elle est et dans ce qu'elle fait. Ce combat n'est plus d'être en concurrence avec l'homme, mais d'être son égal et son complémentaire. Voilà, c'est ça maintenant là. Lorsque dans un couple, une famille, les principes de Dieu sont respectés, quand chacun trouve sa place, la place pour laquelle Dieu l'a appelé, et joue son rôle dans le respect et l'amour, on vit une parfaite bénédiction dans les relations hommes-femmes. Vous savez que des fois, la femme, elle a tendance à vouloir ressembler à l'homme pour être reconnue. Moi, je suis toujours étonné, par exemple, j'aimais bien de regarder les matchs de foot féminin au début. Parce que c'était plein de charme, d'élégance. La femme apportait quelque chose. Mais maintenant, vous voyez des femmes avec des tatouages plein les bras comme les hommes. Elles veulent ressembler aux hommes. Elles crachent par terre, elles se battent, elles se roulent par terre comme les hommes. Je me dis, mais c'est des hommes avec des grands cheveux, quoi. Et moi, je dis, mais la femme, elle a tellement de valeur, tellement de choses à montrer que pourquoi aller essayer de ressembler à un homme ? Je dis la dernière fois pour provoquer Wardia, parce que des fois j'aime bien la provoquer. Je lui dis, tu sais Wardia, il y a deux députés qui ont proposé de changer la loi française en retirant l'expression « le devoir conjugal ». Je m'adresse à elle et j'entends du fond de la chambre de Solène, 24 ans, célibataire, elle me dit « ah ben il serait peut-être temps hein. !» Mais de quoi je me mêle? Et là, j'ai senti au fond de son cœur toute la profondeur de la blessure qui existait dans la femme. C'est vrai qu'elle a été martyrisée pendant des années et qui vit vraiment des choses très difficiles. Mais aujourd'hui, dans les relations hommes-femmes transformées par Christ, on ne devrait pas vivre des choses comme ça. On ne devrait plus vivre des choses comme ça. Et je voudrais, pour conclure, terminer par le beau verset du psaume 127 de Salomon. Si une maison, répétez-le avec moi, si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Michel, tu pourrais me le dire ?
Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement.
C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est vrai. Voilà, je vous remercie pour votre écoute attentive. Et oui. Non, je pense pas. Je pense que naturellement la femme, par exemple le Wardia chez nous, je vais quand même expliquer. Par exemple, moi j'ai voulu repasser une fois. J'ai brûlé le linge. Bon, j'ai mal fait parce que je voulais repasser un maillot de bain et ça se fait pas. Bon, et donc voilà. Donc je veux dire, elle prend en charge tout ce qui est soins ménagers, c'est vrai. Mais c'est pas son rôle. Moi, quand je peux l'aider, quand je peux faire, par exemple, vider de la vaisselle, quand je peux aller faire les courses, que je peux faire plein de choses, passer l'aspirateur, c'est pas quelque chose qui lui est destiné. Mais j'ai remarqué que quand on laisse la liberté à une femme, eh ben souvent, c'est elle qui choisit ce rôle-là.
Mais
ah oui, bien sûr. Bah, par exemple, j'ai donné l'exemple du champ. C'est elle qui a été réservé le terrain. C'est elle qui est allée chez Leclerc pour nous réserver les voyages. Moi je ne sais pas, c'est plus fort que moi. Je suis, comme je disais, procrastinateur. Je reporte toujours, je reporte et on ne part jamais. Et donc, heureusement qu'elle est là. Et c'est elle qui... Oui. C'est parce qu'elle ne veut pas.
Dans le milieu, justement, la femme, elle n'a pas été bien traitée. Jamais, j'aurais mis à ce côté. J'ai vu dans laquelle elle a dit que c'était. Donc, je n'en ai pas. Et je pense qu'il serait effectivement un peu mal exprimé. Enfin, pas mal exprimé, mais.
Oui, peut-être. Ouais. Non, puis moi j'avais une mère hyper féministe, et c'est elle qui m'a élevé, parce que mon père, je ne le voyais jamais. Donc c'est elle qui m'a élevé, elle m'a appris des valeurs vraiment pour la femme. Mais moi, franchement, c'est vrai, on est complémentaires, parce qu'il y a des choses que j'arrive pas à faire, et c'est elle qui les fait, et les choses qu'elle n'arrive pas à faire, c'est moi qui les fais, voilà. Et on arrive à faire un équilibre, hein. Voilà. Est-ce que j'ai des propos aussi, parce que des fois c'est vrai, je peux avoir des propos. Est-ce qu'il y a des choses qui. Merci Daniel. Est-ce qu'il y a des propos que vous voudriez Pas régler tout de suite, mais on va les régler. Hein. Non, ça va. Voilà. Maintenant, je propose qu'on puisse prendre un chant avant les annonces. Et c'est un très, très